David Abiker.
Pour lire les journaux, c'est David ce matin, il faut d'abord savoir compter.
Il faut savoir compter les milliards en dollars, en euros, en bitcoins. Commençons par les 15 milliards alloués par le projet de loi de programmation du budget du ministère de l'Intérieur. C'est la une de Libération. L'enjeu, augmenter de 20% le budget de la police d'ici 2027. Des milliards, vous en trouvez à la une de l'Opinion qui s'intéresse aux super profits, avec le patronat dans le collimateur et la création d'un dividende salarié qui se dessine peu à peu, voilà qui éviterait de taxer les entreprises en redistribuant davantage aux salariés, explique les Échos. Les labos en grève, là encore une histoire de millions, c'est la une du Télégramme qui vous explique pourquoi les laboratoires d'analyse médicale font la grève, parce qu'on veut les contraindre à 250 millions d'économies après les bons résultats engrangés pendant le Covid. Enfin, des milliards qui s'évaporent, c'est la une des Échos et du Figaro Économie avec la faillite de FTX, l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies. Il y a une semaine, son fondateur, Sam Bankman, président d'FTX, pesait 16 milliards d'euros. Aujourd'hui, il ne pèse plus rien.
Voilà, ça c'est Luc Ferry. C'est l'histoire de ce garçon d'à peine 30 ans que racontent ce matin les journaux.
Vous avez nécessairement quelqu'un dans votre entourage qui a acheté du bitcoin, quelqu'un qui vous a confié ne rien comprendre aux crypto-monnaies, ou quelqu'un qui vous a expliqué que c'était là qu'il fallait placer son argent. Eh bien, si vous ne l'avez pas écouté, vous avez bien fait. Dans le monde du week-end, il y a une photo amusante. Le 13 octobre dernier, Sam Bankman, jeune fondateur de FTX, est invité à Washington par le très sérieux Institut de la Finance Internationale. Ce trentenaire chevelu se pointe en basket, t-shirt et bermuda. Il est l'une des coqueluches de cette nouvelle finance. Sa plateforme, qui emploie 300 salariés, était considérée, explique Le Monde, comme l'une des plus sûres du monde. Vendredi, l'entreprise s'est effondrée et s'est déclarée en faillite. Une faillite qui pourrait être aux crypto-devises ce que Lehman Brothers fut à la crise de 2008. 100 000 clients qui ont déposé leurs jetons électroniques et capitaux chez FTX sont sur le carreau. Selon la presse et les révélations du site spécialisé CoinDesk, Sam Bankman, Fried, a tout simplement utilisé l'argent de ses clients pour financer sa propre société crypto-financière basée au Bahamas. Selon le Wall Street Journal, le jeune homme prenait des paris financiers très risqués et sa société doit 10 milliards à FTX.
Et le Figaro raconte la chute d'une icône.
Selon Bloomberg, la chute de Sam Bankman-Fried raconte une des plus grandes destructions de richesse de l'histoire. Fils de deux professeurs de droit à l'université de Stanford, il était voué à des études prestigieuses. Brillant, il étudie la physique au MIT avant de s'orienter vers les crypto-monnaies en 2017. Il crée FTX en 2019. Un site d'achat et de revente de crypto-monnaies. Selon Nikkei Asia, entre 2019 et 2022, Bankman devient l'une des personnes de moins de 30 ans les plus riches du monde. Le site d'information économique japonais le décrit comme la caricature du millénial. Il est végétarien, partage son appartement avec des copains, porte des baskets et des t-shirts et s'assure que chaque pièce de ses bureaux est équipée de poufs pour dormir. Bon, la caricature. Certains médias voient en lui le futur Warren Buffett, rien que ça. Il fait l'an dernier la une de Forbes, qui s'est pourtant compté. Aux Bahamas, qu'il choisit bientôt parce que c'est un paradis fiscal et parce que la législation sur les crypto-monnaies y est très favorable, il investit dans l'immobilier. À la veille de sa banqueroute, Bankman a rejoint le Gotha. Il a séduit le champion de football américain Tom Brady et la mannequin Gisele Bündchen, qui prêtent leur image à son entreprise. Il s'est engagé à soutenir financièrement le Parti démocrate. C'est d'ailleurs ce qui a pu agacer certains investisseurs et certains de ses ennemis. Entre le 8 et le 11 novembre, sa fortune a perdu 94% de sa valeur et ses excuses sur Twitter n'y ont rien changé. Il y a quelques jours encore, le jeune financier appelait à quoi ? À la régulation du marché des crypto-monnaies. Comme s'il sentait la tempête arriver.
Le président parle climat sur Twitter et YouTube.
C'est via les réseaux sociaux qu'il a décidé, Emmanuel Macron, de répondre aux questions de la génération climat sur sa politique écologique et la condamnation de l'État pour inaction climatique. Extrait de ses échanges ce week-end, ambiance.
Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser des questions sur l'écologie. Donc j'ai eu plein de questions, je vous en remercie, d'interpellations, plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques. Mais je vais essayer de répondre à tout et je vais commencer aujourd'hui. Donc vous êtes très sympathique, Melvac, d'essayer de m'en coller une sur Twitter. Mais la condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Je ne suis pas sûr que, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien, mais je crois comprendre l'idée qu'il y a derrière.
Inaudible Macron, même quand il parle jeune, se désole dans les échos Cécile Cornu dès ce matin. Les messages gouvernementaux n'impriment pas, mis à part ceux du ministre de l'Intérieur sur l'immigration. Borne a parlé de nation verte, personne n'a retenu. Emmanuel Macron a fait 4 millions de téléspectateurs dans sa dernière allocution télévisée. Fut un temps où il réunissait 25 millions de Français devant leur téléviseur quand il parlait Covid. Les Français n'écoutent plus et se sont repliés chez eux. Eh bien justement, Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, suggère au président d'aller rencontrer les Français à nouveau, chez eux, dans leur province. Et c'est dans Le Point qu'il entame un blues. Le blues de ces conversations de bistrot que le président devrait, selon lui, fréquenter plus souvent. Voilà ce qu'il écrit. Dans la salle et au comptoir, des clients sirotent leur apéritif et mêlent leurs conversations. Pourquoi la France importe-t-elle des produits alimentaires? Pourquoi EDF n'assure-t-elle plus de l'électricité pour tous? Pourquoi les Allemandes sont-ils plus nos amis et l'Allemagne et l'Allemande van der Leyen prétend-elle se mêler de nos affaires? Pourquoi ceux qui ont si longtemps cotisé, au moins que ceux qui viennent d'arriver illégalement? Comment le meilleur système de santé du monde a-t-il pu se laisser à ce point surprendre par le Covid? Pourquoi l'école préfère-t-elle cracher sur notre passé plutôt que de nous en rendre fiers? Et surtout, quand cessera-t-on de nous expliquer que nous n'y comprenons jamais rien et que la lumière vient de ces jeunes gens sans expérience? Voilà une tribune désenchantée à lire sur le site du Point. C'est signé Thierry Lenz et ça dit la difficulté de communiquer avec les Français pour le président, et malheureusement Twitter et les réseaux sociaux n'y pourront rien changer.
Merci David Abiquet, 8h43, excellente revue de presse comme d'habitude. Voici.